Le CGRI poursuit la lutte contre les séparatistes au Kurdistan irakien, affirme le commandant des forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique. L'Iran surprend le pays de Galles et décroche une victoire méritée. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'Iran est pleinement attaché aux droits de l'homme et ne permettra aucune ingérence étrangère dans ses affaires intérieures sur la base de telles allégations. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici les détails. Le commandant des forces terrestres du CGRI a fait état du renforcement des unités blindées du CGRI aux frontières ouest et nord-ouest du pays et a déclaré, dixit, la lutte contre les groupes séparatistes se poursuit. Le commandant des forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Mohammad Pakpour, a affirmé, compte tenu des agissements des malfaiteurs et de groupes séparatistes anti-iraniens dans le nord-ouest du pays et leurs actes déstabilisateurs dans les régions frontalières, les forces terrestres du CGRI ont procédé à déployer des renforts sur les frontières des provinces de l'ouest et du nord-ouest du pays et en s'appuyant au potentiel du peuple fidèle de la région fera face de manière décisive au fauteur de l'insécurité dans la région. Fin de citation. Le haut commandant du CGRI a par ailleurs précisé certaines unités blindées et forces spéciales du CGRI se dirigent actuellement vers les provinces frontalières situées à l'ouest et au nord-ouest du pays dans le but de renforcer les unités déjà cantonnées à la frontière ainsi que d'empêcher l'infiltration d'équipes terroristes affiliées à des groupes séparatistes basés dans la région du nord de l'Irak. Depuis début septembre, les forces terrestres du CGRI ont attaqué aux missiles, aux drones et à l'artillerie des bases des groupes séparatistes dans le Kurdistan irakien dans le cadre des opérations Rabi 1 et Rabi 2. Il convient de noter que jusqu'à présent, les quartiers généraux de groupes terroristes tels que le parti Komola, le parti démocratique du Kurdistan, le parti PJAK ont été attaqués lors de récentes opérations du CGRI. On vous lisait aussi en titre, l'Iran a surpris le pays de Galles et a décroché une victoire bien méritée. Récompensé de sa belle prestation, l'Iran s'est imposé face au pays de Galles grâce à 2 buts dans le temps additionnel 0-2 lors de son 2e match de la phase de poule de la Coupe du Monde au Qatar. Un résultat qui permet aux Iraniens de se replacer dans la course aux 8e de finale dans ce groupe B. Ça se complique en revanche pour les Dragons de Gareth Bale qui ne comptent qu'un point après 2 journées. Les Gallois ont au bord de l'élimination avant de se frotter à l'Angleterre. L'Iran a créé l'exploit face au pays de Galles en inscrivant 2 buts tardifs à la 98e minute et à la 101e minute. Une victoire méritée pour des Iraniens extrêmement courageux pendant toute la rencontre. Les Gallois ont longtemps résisté, mais réduit à 10 à la 86e minute, ils ont fini par craquer. C'est NSC qui a été exclu à la suite d'une sortie très risquée, écopant du premier carton rouge de son mondial. Les 2 buts ont été inscrits par Rouzbeh Chechmi et Ramin Rezaian. Dans le groupe B, l'Iran prend la 2e place grâce à sa victoire et les points qui vont avec. L'Angleterre est toujours première avec le même nombre de points, mais les Anglais affrontent les États-Unis cet après-midi. On vous lisait également en titre. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'Iran est pleinement attaché aux droits de l'homme et ne permettra aucune ingérence étrangère dans les affaires intérieures sur la base de telles accusations. Dans une série de tweets, Hossein Amir Abdollahian a dénoncé les mesures anti-iraniennes de l'Allemagne, déclarant que Berlin n'était pas seulement le principal fournisseur d'armes chimiques de l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein, mais continuait de violer les droits de l'homme par le biais de sanctions injustes et inhumaines. Le plus haut diplomate rappelle que l'Allemagne et ses alliés occidentaux abusent des mécanismes des droits de l'homme pour perpétrer davantage de violations. Ces remarques sont intervenues quelques heures après que les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies se sont réunis à la demande de l'Allemagne et de l'Islande pour discuter de l'Iran. Le Conseil a adopté une résolution anti-iranienne appelant à une enquête internationale sur la réponse de l'Iran aux récentes émeutes dans le pays. Plus tôt, le représentant de l'Iran au Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, a condamné l'Occident pour son double standard et son approche biaisée sur les questions des droits de l'homme et des femmes. Suite du journal avec une actualité syrienne. Le président syrien Bachar al-Assad a reçu jeudi à Damas le premier ministre de la République de Biélorussie, Roman Golovchenko, et la délégation l'accompagnant. L'agence de presse syrienne Sana a rapporté que Golovchenko avait remis au président Assad un message du président Alexandre Loukachenko sur les relations amicales entre la Syrie et la Biélorussie et les perspectives de développement de la coopération bilatérale. Le président syrien a estimé que cette visite est importante non seulement au regard des accords bilatéraux qui ont été signés entre les deux pays, mais aussi pour discuter de domaines spécifiques de coopération, les lancer de manière pratique et faire avancer les relations et établir des projets d'investissement communs qui profitent aux deux parties. L'assaut entre la Biélorussie est dû à sa position stratégique au cœur de l'Europe et à l'indépendance de ses décisions et politiques, a déclaré le président syrien, ajoutant que l'Occident poursuit une politique de guerre pour maintenir son hégémonie et essaye toujours de faire en sorte que ces guerres continuent, sans quoi son système de domination serait en danger de désintégration. À son tour, le premier ministre biélorusse a affirmé que les domaines de coopération avec la Syrie sont illimités, soulignant que les institutions biélorusses ont fini de préparer des dossiers liés à la mise en place d'un certain nombre de projets bilatéraux et à l'échange de produits répondant aux besoins des deux peuples. Il a souhaité que les rencontres entre les institutions des deux pays se poursuivent afin d'élargir les domaines de coopération et de projets communs. Destination France pour fermer le journal. Alerté sur Macron et McKinsey, le PNF élargit ses enquêtes aux comptes de campagne de 2017 et 2022. Les investigations des juges portent aussi sur des suspicions de favoritisme et recel de favoritisme à la suite d'interventions des cabinets de conseil. L'Élysée s'est d'abord réfugiée dans le silence, pas de commentaires. Évacuait-on dans un premier temps dans l'entourage d'Emmanuel Macron jeudi après-midi, peu après les révélations du journal Le Parisien. Avant de consentir à la formule qui s'impose dans pareilles circonstances, il appartient à la justice de conduire des investigations en toute indépendance. McKinsey n'a aucune information sur les éléments parus par voie de presse ce jour. Abondait-on au sein de l'entreprise et groupe de consultation? Dans un communiqué publié dans la foulée, le parquet national financier, PNF, confirmait pourtant l'ouverture de deux informations judiciaires les 20 et 21 octobre derniers, portant sur l'affaire McKinsey et plus globalement sur les conditions d'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022, suite à plusieurs signalements et plaintes d'élus et de particuliers, ainsi que des saisines de syndicats et d'associations. Des enquêtes portent donc actuellement sur une présumée tenue non conforme des comptes de campagne et des soupçons de minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne. Enfin, les investigations du PNF portent par ailleurs sur chef de favoritisme et recel de favoritisme.
Thank you.
Guerre en Ukraine, les industries d'armement de l'Europe de l'Est s'en frottent les mains. C'est le thème qu'on va développer dans notre commentaire d'aujourd'hui. Un rapport d'enquête montre comment les fabricants d'armes d'Europe de l'Est ont multiplié leurs bénéfices en augmentant de façon exponentielle leur livraison d'armes à l'Ukraine depuis le début de l'opération militaire russe dans ce pays. L'industrie de l'armement d'Europe de l'Est produit des armes à feu, des obus d'artillerie et d'autres fournitures militaires à un rythme jamais vu depuis la guerre froide pour que se poursuive l'aide des alliés de l'Ukraine qui lui fournissent des armes depuis le 24 février, épuisant leur propre stock en cours de route. La Russie a lancé une opération militaire chez son voisin du Sud afin de défendre la population pro-russe dans les régions de Louhansk et de Donetsk contre les agissements de Kiev. En 2014, les deux républiques se sont séparées de l'Ukraine, refusant de reconnaître un gouvernement ukrainien soutenu par l'Occident qui avait renversé une administration démocratiquement élue favorable à la Russie. Depuis le début de la guerre, les alliés de Kiev, les États-Unis et la Grande-Bretagne à leur tête ont rempli les arsenaux d'armes ukrainiens d'armes de pointe, une étape qui ne fera que prolonger les hostilités. Le rapport indique que la Pologne est désormais le troisième plus grand fournisseur d'armes à l'Ukraine et la République tchèque le neuvième, citant les chiffres de l'Institut allemand Kiel pour l'économie mondiale. Compte tenu des réalités de la guerre en cours en Ukraine et de l'attitude visible de nombreux pays visant à augmenter les dépenses dans le domaine des budgets de la défense, il existe une réelle chance d'entrer sur de nouveaux marchés et d'augmenter les revenus d'exportation dans les années à venir, a déclaré Sébastien Schoalek, PDG de l'entreprise publique Polish Armament Group, PGZ. PGZ prévoit désormais d'investir jusqu'à 1,8 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie, soit plus du double de son objectif d'avant-guerre, a déclaré Schoalek à Reuters. La société qui, selon lui, a livré des systèmes d'artillerie et de mortiers, des obusiers, des gilets pare-balles, des armes légères et des munitions à l'Ukraine devrait dépasser un objectif de revenus d'avant-guerre de 6,74 milliards de zlotys, soit 1,4 milliard de dollars pour 2022. Toujours à propos de l'augmentation des livraisons d'armes de l'Europe de l'Est vers l'Ukraine, l'ambassadeur tchèque auprès de l'Alliance militaire occidentale de l'OTAN, Jakub Landowski, a déclaré, dixit, c'est une grande chance pour les Tchèques d'augmenter ce dont nous avons besoin après avoir donné aux Ukrainiens les anciens stocks de l'ère soviétique. Cela peut montrer aux autres pays que nous pouvons être un partenaire fiable dans l'industrie de l'armement.